fondamentaux.
Le spirituel dans la cosmogonie négro-africaine occupe l'essentiel de la vie de l'humain. La dimension laïque des pratiques qui est très peu présente, elle se confond avec l'univers magico-religieux africain. L'invisible ici soutient le visible, qui l'agresse, guide ou oriente. Cette dynamique essentielle parcourt et codifie les comportements de l'humain pour se reproduire dans la pratique du christianisme et de l'islam, désormais en tous les espaces africains. L'espace laïque, dont l'État s'affirme comme le champion, devient un espace spirituel, voire un univers de compétition interreligieuse. En deçà du spirituel, ce sont le religieux et les religions qui entrent en scène. Fait troublant, le religieux est souvent porteur de dogmatisme ou d'extrémisme, c'est-à-dire cette propension à aller au-delà du raisonnable spirituel collectif. L'Afrique subsaharienne en est un champ de prédilection, avec à la clé le risque d'un piétinement économique et d'un embrasement permanent du climat social. La laïcité s'impose, dès lors, comme une solution à toute velléité de conflits interreligieux. D'où l'intérêt d'une réflexion sur le thème Afrique subsaharienne et laïcité, mais aussi sur tout projet social susceptible de promouvoir un œcuménisme humain. Je te donne la parole.
Je te remercie, Jacques, pour ces mots forts, sympathiques et fraternels. Tu es pour nous une référence. Nous te suivons avec beaucoup d'humilité et je sais que tu ne ménages aucun effort pour nous permettre d'être à tes côtés, pour apprendre et pour aller à la conquête d'un mieux-être humain. Merci à toi, Jacques, et merci. Merci infiniment. Afrique subsaharienne et laïcité, jeux et enjeux. Que dire en guise d'introduction? Et si le sous-sol en Afrique subsaharienne était encore riche? Et si cette richesse était encore majoritairement à l'état de pure nature? Et si les Africains de l'Ouest et du Centre et de partout parvenaient à créer les États-Unis d'Afrique pour une renaissance africaine? Et si enfin le soleil noir décidait de se lever sur le continent noir pour illuminer le monde en lui offrant de nouvelles clés pour un apaisement durable du climat social? Et si la laïcité était cette clé-là? Et quelle serait alors cette laïcité? Ne serait-ce pas, au-delà des définitions classiques, cette conscience, donc une ébauche de définition de la laïcité, cette conscience que l'on aurait à être à l'intersection des différentes pratiques rituelles, cultuelles et culturelles, et l'aptitude qu'aurait l'humain à s'élever, élévation et transcendance, au-dessus des religions et de l'ensemble des pratiques religieuses, de façon à œuvrer à la restauration de l'autorité de l'État en lui reconnaissant sa puissance de médiation dans le dialogue interreligieux et sa force d'arbitrage dans les incompréhensions majeures, voire les conflits et les guerres. L'État, n'est-ce pas cette puissance visible et invisible omniprésente, ou l'État présent, et en principe aussi omnipotente, omnipotent, s'agissant de l'État? Si telle est la vision, alors seul l'État, un État fort et habile, peut garantir un citoyen ou citoyen le droit de vivre dans un environnement sain, laïque ou laïcisé, en se soumettant à un régime de respect des valeurs partagées par tous, dont d'abord et avant tout la devise de l'État dans lequel le citoyen devrait en principe pleinement jouir de ses droits. Ce seraient entre autres les sept valeurs dont le respect devrait être soumis à la théorie des quatre vérités, au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire où je suis intervenu comme médiateur auprès de médiateurs de la République, je me suis vu en train d'énoncer la théorie des quatre vérités, car en fait, la mauvaise foi avait fini par triompher de notre existence, et je pensais que la première vérité était la vérité intérieure. Seule cette vérité détermine ma liberté de penser, ma tranquillité, ma quiétude. La seconde vérité étant la vérité scientifique, qui postulerait banalement que 2 plus 2 égale 4. Bien évidemment, ayant trouvé cette vérité scientifique, il revenait aux citoyens d'être en harmonie avec le divin, le spirituel. C'est la troisième vérité, la vérité que j'appelle la vérité divine. Pour en arriver au concept de Chenu qui indique que dans la mesure où nous sommes obligés, tenus de vivre dans un même village durablement, et nous et nos enfants et les enfants de nos enfants, alors que ne faut-il pas interroger la vérité consensuelle, donc la vérité collective. En cela, 2 plus 2 pourrait être suffisant, mais peut-être faudrait-il y ajouter 1. On aurait donc 2 plus 2 égale 4 plus 1, le 1 relevant de la dimension humaine de l'existence de l'humanité. Donc, ces valeurs qui paraissent transversales, j'en énonce 7. Je ne sais pas s'il faut l'appeler valeur, mais la première serait la paix intérieure, qui, de mon point de vue, est le siège de la bonne foi, qui est la source de l'équilibre et qui est porteuse, cette paix intérieure, d'esprit de justesse, de justice et d'équité. La deuxième valeur, donc, la liberté, expression de l'aptitude de l'humain à vivre son humanité, c'est-à-dire ce qu'il fait, qu'il est lui en tout lieu et en toutes circonstances, et qu'il oblige à voir en l'autre altérité, qu'il doit respecter, homme ou femme, un autre lui-même. Deuxième valeur. Troisième valeur, l'amour. Cet amour porteur d'amitié et d'humanisme. Il s'agit de l'amour. De cet amour spirituel qui, selon le troubadour Diène de Montangol, rend bons les méchants et les meilleurs et meilleurs les bons. Cet amour qui rend bons les méchants et meilleurs les bons. C'est de cet amour spirituel et spiritualisé qu'il s'agit. Quatrième valeur, la solidarité qui manifeste à travers l'expression, qui se manifeste à travers l'expression de la fraternité universelle et qui favorise et facilite la vie en communauté, ainsi que le symbolise à merveille une belle toile d'araignée. La symbolique de la toile d'araignée qui justifie que dans mon village, un enfant qui commet une faute soit repris par un parent, donc le village, en tant qu'école ouverte, peut-être aussi pour aller vers les théories de Ivan Illich, une société sans école, mais l'école elle-même étant la société. La cinquième valeur, c'est la valeur de la charité, qui, loin de promouvoir la mendicité, et l'esprit de paresse invite et incite à la production et au partage. Partage. La sixième valeur, la patience, expression de la persévérance et de la quête des valeurs, des savoirs et de la connaissance, ainsi que le suggère la théorie du succès, du cerceau du succès d'une vie en quatre quarts de siècle. Là encore, vous permettrez rapidement que justement, peut-être la guerre en Côte d'Ivoire m'a donné à penser et à remettre en cause l'existence humaine. Et donc là aussi, j'ai été amené à concevoir la théorie du cerceau de la vie, du succès de la vie en quatre quarts de siècle. La vie, quatre quarts de siècle, la première partie, donc les 25 premières années, c'est l'apprentissage, la connaissance. On arrive à ce niveau-là avec deux aspects, les 25 années d'ici qui permettent d'affirmer, de s'affirmer comme tel. On a appris, on s'affirme, on s'exerce, on rayonne, on s'accomplit, l'affirmation de soi. Là, en partant de 50 ans, une nouvelle jeunesse s'établit pour aller vers la reconnaissance. reconnaissance à travers la célébration, l'âge de la période de la sagesse, la célébration, les décorations et tout cela. Et enfin, on arrive à cette partie, on peut aller au-delà, hein, mais je limite à 25 à 100 ans. Donc, en arrivant là, on est dans la phase de l'immortalisation, c'est-à-dire la phase où le péché n'est plus péché, ou la phase où le pardon apparaît comme la symbolique, où on est, mais vraiment du succès de la vie pour un homme de qualité. Je veux dire, pas évidemment, le contraire également peut exister, alors on devient pire. Donc, ici, en partant de là, on s'est dit, mais quelle est la période dans laquelle se trouvent les États africains et comment allons-nous évoluer, comment chacun évolue pour qu'il soit là? Parce que chez nous, contrairement à ce que l'on pense, on va dire, mais la femme ne participe pas aux grandes décisions, ce qui n'est pas vrai, puisque coutumièrement, cette période de la ménopause, les 5 dernières années à peu près, cette période de la ménopause va permettre un certain nombre de perturbations, mais lorsque la femme franchit cette période, elle devient homme-femme. C'est-à-dire qu'elle participe pleinement aux cérémonies initiatiques. Elle est humanisée, mais cela peut être aussi lié aux questions de physiologie. Hein. Chez nous, une femme en période menstruelle ne donne pas à manger, ne reste pas dans la même maison que son homme, etc. Enfin, dans certaines civilisations. Donc, parvenue à cette période, on estime que la femme est totalement accomplie. Sinon, c'est la période de la vie discrète et la période de la vie spirituelle initiative publique pour la femme. Et on parlera de la femme plus tard. Donc, le cerceau du succès de la vie en quatre quarts de siècle est ce que je viens de présenter, donc qui permet de voir comment l'homme progresse avec patience et persévérance jusqu'à la qualité, à la quête de la qualité totale. La septième valeur étant le pardon. Et le pardon, question, j'allais dire fatale, qui donc peut accorder le pardon, si ce n'est Dieu lui-même. Le pardon, don gratuit de Dieu, dont Dieu seul a l'ultime secret. C'est le pardon qui passe par l'oubli, lequel oublie, s'oublie à force d'actions de qualité répétée. C'est donc pas de façon mécanique qu'on oublierait. C'est après avoir fait une faute, de faire des actions correctives de qualité à répétition jusqu'à ce que la personne offusquée, choquée, oublie qu'il y a eu un choc. Ce disant, l'état en situation est indéniablement un état laïque lui-même porté et transporté par la mystique de la bonne gouvernance. Si nous allons vers la qualité, alors faudrait-il prendre en compte la mystique de la bonne gouvernance, en ceci que tout pouvoir ou toute puissance créatrice, celle du poète, est d'abord et avant tout divin. Hugo ne dit pas autre chose quand il dit le poète est un prophète, un mage. C'est lui qui mène à Dieu, rois et pasteurs. Et malheureusement, je pense que c'est l'un des aspects que les nombres de littéraires ou de critiques littéraires n'ont pas tout à fait exploité, parce qu'en fait, on a interrogé la thématique, la stylistique, le style qui est l'écriture, mais on n'a pas suffisamment interrogé la mystique qui a animé l'écrivain écrivant au moment où il écrit. Qu'est-ce qui a fait qu'au moment où j'écrivais, j'ai pu écrire et que j'étais animé par quelle force? Et je crois, dans un texte que j'ai présenté à Cracovie, j'ai justement abordé la question de la critique de la critique, de la métacritique en tant que mystique du texte littéraire. J'en viens au fondement juridique de la pensée politique en Afrique subsaharienne, comme premier volet. La pensée politique en Afrique subsaharienne, il renvoie, ainsi que l'indique, bien avant 1789, mais longtemps avant 1948, en 1236 déjà, la charte de Kourou-Kanfougan, c'est-à-dire ce code juridique établi à l'issue du combat qu'il y a eu entre Soumangourou, Kanté et Soundiata Keïta. Cette charte a été revue, retravaillée par un groupe de chercheurs africains pour en arriver à 44 textes de loi élaborés en 1236. Cette convention de 44 lois-décisions offre un code juridique au lendemain de la victoire de Soundiata Keïta. En voici quelques extraits, dont certains articles, évidemment, toute constitution aurait pu être revisitée. Donc certains articles méritent bien sûr d'être revisités. Article 2, par exemple. Les 5 clans de marabouts sont maîtres et nos éducateurs sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. 1236. Parlons de laïcité. Les racines du bien ou du mal sont bien profondes. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. 1236, la charte de Kourou-Kamfoukan. Article 6. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le système général de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. 1236. Article 7. Il est institué entre les mandinkas, c'est les mandés, malinkés, le sanankuya, c'est-à-dire le sénankuya, c'est-à-dire la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie. Autre élément de perturbation que j'avais eu en pleine crise, parce qu'il me fallait trouver les raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à sortir de cette crise, donc j'ai fait monter la carte des alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Les interactions entre les peuples, donc les parentés à plaisanterie, susceptibles de faire en sorte que, quoi qu'il advienne, on puisse se pardonner. Jusqu'à, parfois, la mort. C'est-à-dire, les peuples alliés ne se doivent pas vengeance, quoi qu'il advienne. Article. Donc le Sanankuya ou le pacte de sang même, en conséquence, tout différent. Alors le texte de l'article 7, aucun différent né entre ces groupes ne doit dégénérer. Le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Je crois que sur certains points, on rejoint encore Hugo, l'art d'être grand-père. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. 1236. Ça, la théorie de la toile d'araignée, justement. Tout le monde est responsable de l'éducation de l'enfant. Article 14. N'offensez jamais les femmes, nos mères. La question du genre. Prisée. Aujourd'hui par les Nations Unies. Article 15. Ne porte jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir, peut-être sans succès, son mari.
Très bonne idée.
Article 16. D'ailleurs, ne portez pas. Mais aujourd'hui, on révisiterait pour dire ne portez pas du tout. Mais... Article 16. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. 1236. Article 20. Ne maltraitez pas les esclaves. On est maître de l'esclave et non du sac qu'il porte. On est maître de l'esclave et non du sac qu'il porte. Article 24, et on peut en citer d'autres. Au mandé, ne faites jamais du tort aux étrangers. Bien évidemment, certains articles comportent des excès. Ce qu'il faut tout de même retenir, c'est que la charte de Kourou-Kamfoukan, qui institue les parentés à plaisanterie, est encore aujourd'hui en vigueur dans la plupart des régions de l'Afrique subsaharienne. C'est encore en vigueur, ce qui montre bien cette interaction entre les différentes... Je crois qu'il y a encore un ou deux textes. Je l'ai monté ça au rythme du festival de la route des reines et des rois parce qu'en fait, je me suis dit, avec toutes les crises à répétition, est-ce que l'Afrique n'avait pas de moyens de résolution de ses propres conflits? Donc j'ai pris la route idéale, la route physique, pour aller à la rencontre des rois et des chefs à travers un festival colloque. J'ai pris la route spirituelle pour découvrir la spiritualité qu'il y a dans les gouvernances et donc la mystique depuis l'Abidjan jusqu'à, j'allais dire, Madagascar en passant par le Bénin pour voir quel était le système de gouvernance à l'intérieur duquel se trouvait une mystique, des divinités qui accompagnaient et régulaient le système de la gouvernance. On va même plus loin, chez certains peuples, le roi a toujours une chaîne de petites bouteilles chez les Morés, par exemple, et dans l'une des bouteilles se trouve la bile de caïman. C'est-à-dire, au cas où je fais, le roi ou le chef fait honte à la cité, il entre et il dit qu'il a été appelé par les ancêtres et ne revient plus. Il entre à la rencontre des ancêtres. C'est montrer la puissance de la dignité recherchée à travers ces peuples. Donc, la route physique, la route métaphysique, la route spirituelle, la route idéale, pour moi, ce n'était pas une route physique essentiellement, mais il fallait aller à la rencontre de nos valeurs pour savoir ce qu'on avait. Et vous comprenez pourquoi ce texte même remonte jusqu'au XIIe siècle et bien au-delà. On vous parlera des Almoravides tout à l'heure. Comme la plupart des textes fondateurs écrits le centre de recherche, constitution, loi fondamentale, le mythe de la charte de Kourkan-Fougan a été conçu dans un contexte de crise, de grands défis. Cette charte vient au terme d'un long processus historique pour donner assise à un nouvel ordre des choses. Elle fonde un nouvel empire, l'empire du Mali qui succède à l'empire du Ouagadou ou l'empire du Ghana, tombé en 1076 sous les coups des Almoravides. Je m'appelle bien Urbain, et certainement, nous sommes aussi vers la période où il semblerait qu'il y ait eu plus tard quelques croisades de par le monde. Deux idées peuvent marquer cette première partie de nos réflexions. L'existence d'un code de bonne conduite en Afrique subsaharienne et la domination de l'animisme, de l'islam par l'animisme. Deuxième volet, l'Afrique subsaharienne, laïcité ou logique d'une déchirure multiséculaire. Au Xe et XIe siècle, c'est une citation du centre de recherche, des rois se convertissent à l'islam. Au Xe et XIe siècle, des rois se convertissent à l'islam, c'est le cas du roi de Gao et du Tekrour, vers 1140. Vers 1150, c'est le tour du roi du Mandé qui, par suite d'une longue sécheresse, embrassa l'islam après que les prières d'un arabe installé à la cour eurent le don de faire tomber la pluie tant désirée. Mais l'entrée en scène des Almoravides, tribu berbère islamisée au XIe siècle, changea les choses. C'en était fini de l'islam pacifique des marchands. Fanatisés par la retraite dans le couvent, les Almoravides entreprirent de répandre l'islam par les armes, avant de déferler sur le Maghreb et l'Espagne sous la conduite d'Abdallah Ben Yassine. Ils s'attaquèrent à l'empire du Ghana en mettant le siège devant la riche ville marchande de Ouagadougou. Voilà. Qu'est-ce donc l'Afrique subsaharienne ? Si ce n'est un pan du monde et si ce n'est le prolongement du monde. Cette Afrique subsaharienne, vaguement regroupée au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée de 15 États fortement marqués par la présence de l'islam, du christianisme et de l'animisme. Voilà les trois grandes dominantes de pratique. Bien évidemment, il y a certes le vernis de l'islam, il y a certes le vernis du christianisme, mais il y a la permanence de l'animisme, du moins de la pratique, des pratiques spirituelles africaines. Dans cet espace, en 2012, la population par pays varie entre 495 999 habitants pour une superficie de 4030 km², c'est le cas du Cap-Vert, à 158 millions d'habitants pour une superficie de 923 770 km² pour le Nigeria. Cette Afrique-là ne semble pas tout à fait homogène. Dans ce même espace, où les langues internationales officielles que sont le français, qu'on trouve dans 9 pays, l'anglais, y compris le Nigeria, qui fait du français une langue officielle, l'anglais dans 5 pays, le portugais, deux pays. Le taux d'alphabétisation varie entre 26,2% au Mali et 84,8% au Cap-Vert. Là encore, une enveloppe assez vaste de réalités socioculturelles. Ici aussi se succèdent coups d'État, rébellions armées et déjà le terrorisme. À ce propos, Marwan Ben Yamed écrit : au sud du Sahara se succèdent de grandes espérances et d'inattendus coups d'arrêt. L'Afrique de l'Ouest est l'exemple le plus frappant. Les alternances démocratiques s'y multiplient. Après le Ghana, le Cap-Vert, la Guinée, le Niger ou la Côte d'Ivoire, le Sénégal a prouvé, après nous avoir fait douter qu'il était l'un des meilleurs élèves en la matière et montré la voie à suivre. Las, la même semaine que la leçon de Dakar, le coup d'État au Mali, conjugué à la rébellion dans le Nord et à l'expansion d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est venu nous rappeler que rien n'est jamais acquis et que la démocratie s'entretient chaque jour, surtout dans les États toujours fragiles et fragilisés. Le même auteur ajoute : reste que la région du Sahel, surtout depuis la chute de Kadhafi, incarne une énième source d'inquiétude dont l'Afrique n'avait guère besoin. Véritable poudrière et condensée de multiples périls sécuritaires, sociaux, religieux et identitaires. Le Sahel, jusqu'ici abandonné à son sort, est au bord de l'abîme.